Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le ministre de l'Intérieur veut permettre l'expulsion systématique de tout étranger ayant commis des actes graves. Le président de France Fraternité souligne que l'expulsion d'un étranger est aujourd'hui possible, notamment en cas de nécessité pour la sûreté de l'État. Pierre-Henri plaide pour l'application de la loi en vigueur aujourd'hui. Il sera l'un de nos invités. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques dont le parti Ennahda, renouvelle son appel à boycotter le 25 juillet le référendum sur la Constitution. Cela malgré une nouvelle version préparée par le président Kais Saied. Il n'y aura pas de procès en appel pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Aucun des 20 accusés n'a interjeté appel. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient était Sylvie Hiver pour son roman « Au moins le souvenir » aux éditions Héloïse d'Ormesson, un roman consacré au poète Lamartine qui fut également homme politique, extrait dans votre édition. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Un souhait formulé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le président de France Fraternité souligne que l'expulsion d'un étranger est aujourd'hui possible, notamment en cas de nécessité pour la sûreté de l'État. Pierre-Henri plaide pour l'application de la loi en vigueur aujourd'hui. Pierre-Henri.
Je pense que c'est une déclaration qui est assez inutile, parce que le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi. Il y a une loi qui permet d'éloigner, ou en tout cas de se pencher sur l'éloignement de toute personne ayant été emprisonnée pour une durée de 5 ans ferme. Et cette loi s'applique à toute personne en cas de, par exemple, terrorisme, tentative d'homicide ou homicide sur un proche, appel à la haine. Et donc, la vraie question, c'est l'application de la loi actuelle et non pas l'empilement des lois. Vous savez, si on compare la situation entre la France et l'Allemagne, par exemple, la France a pour habitude de délivrer énormément d'ordonnances à quitter le territoire, près de 120 000, par exemple, en 2019. 15 000 seulement ont été exécutés. L'Allemagne a une politique beaucoup plus ciblée, 45 000 ordonnances à quitter le territoire et 25 000 exécutions. Donc, voilà, les propos juste avant l'été de Gérald Darmanin vont faire le lit du Rassemblement national. Parce que quand Gérald Darmanin parle d'actes graves commis par les étrangers qui seraient susceptibles d'amener à leur expulsion, il ne précise pas ce qu'est l'acte grave. Est-ce que ça veut dire qu'il veut remettre en cause la loi qui, aujourd'hui, est d'ailleurs très peu appliquée ou mal appliquée? Et est-ce que ça veut dire qu'il veut l'étendre à de simples délits? On a vu immédiatement la réaction du Rassemblement national qui expliquait qu'ils allaient déposer des amendements, l'aider à améliorer son projet de loi parce que c'était dans un des socles du projet du Rassemblement national. Donc je ne comprends pas l'utilité de cette annonce, si ce n'est de fournir du grain à moudre une fois de plus au Rassemblement national et de les mettre au centre du jeu politique. Je pense que ce n'est pas une bonne politique et que les Français attendent autre chose. Ils ont dit autre chose, y compris pendant la présidentielle. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, la souveraineté industrielle, énergétique de la France et de l'Europe, et certainement pas de faire une fois de plus, d'établir un lien entre immigration et délinquance.
Et on l'entend, vous déplorez un empilement des textes. Ce texte qui existe déjà, l'expulsion d'un étranger qui est possible aujourd'hui en cas de nécessité pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, est peu appliqué. Comment l'expliquez-vous ?
D'abord parce que y a la justice, et fort heureusement. Il faut que la personne soit condamnée définitivement, le dossier se regarde en fonction d'un certain nombre de critères. L'idée selon laquelle un étranger qui est arrivé par exemple à l'âge de 5 ans dans le pays, qui a commis un délit et que l'on voudrait renvoyer dans le pays d'origine, avec lequel il n'a plus aucun lien. Est-ce que ça n'est pas un sujet qu'il faut débattre ? Et puis, j'ajoute qu'on ne fait pas des lois pour quelques centaines de personnes. On ne va pas améliorer la situation des Français sur le plan de la sécurité. Il est normal que les Français demandent évidemment de la sécurité. Il n'est pas normal, par contre, de faire de la démagogie sur ce sujet. C'est trop facile. Pourquoi les mesures d'éloignement ne sont pas appliquées ? Bah, y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que les pays d'origine, très souvent, ne reconnaissent pas leurs ressortissants et ne souhaitent pas forcément les recevoir. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que très souvent, les ordonnances à quitter le territoire sont beaucoup trop larges et du coup, la justice décide en toute autonomie et liberté que non. L'étranger en question ne représente pas une menace grave pour l'État. Donc il y a aujourd'hui tous les éléments qui permettent d'encadrer cela, parce que bien évidemment, il n'y a pas un seul Français qui va vous dire que quelqu'un, parce que bien qu'étranger ayant commis un crime grave, un viol, représentant une menace terroriste, doit rester sur le territoire. Ce n'est pas la question. La question, c'est applicabilité de la loi actuelle et non pas empilement pour simplement faire le buzz et occuper l'espace.
Et là, c'est un travail à mener entre États.
Oui, il y a un travail à mener évidemment entre États, bien sûr. Il s'agit aussi de diplomatie, mais le sujet est trop délicat pour que on passe par une petite annonce dans un journal hebdomadaire le dimanche, pour annoncer cela. Je pense que c'est une annonce inutile.
Le président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile, chercheur à l'IPSE, Pierre-Henri. En Tunisie, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques dont le parti Ennahda fait partie, renouvelle son appel à boycotter le 25 juillet prochain le référendum sur la Constitution, cela malgré une nouvelle version préparée par le président Kais Saied. La nouvelle mouture a été publiée au journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Kais Saied a modifié deux articles controversés, l'un évoquant la place de l'islam et l'autre les droits et libertés. Au chapitre 5, le président a introduit la mention « au sein d'un système démocratique » dans la phrase affirmant que la Tunisie fait partie de la communauté islamique et que l'État doit travailler pour atteindre les objectifs de l'islam. L'autre passage important concerne l'article 55. Il dit désormais qu'aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis dans la présente constitution, si ce n'est en vertu d'une loi et d'une nécessité imposée par un ordre démocratique. Le mécanisme d'aide humanitaire transfrontalière en Syrie. Un accord a été trouvé entre les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger de 6 mois ce mécanisme d'aide. Il a expiré dimanche soir. Le délai de 6 mois a été réclamé par la Russie face à l'Occident qui réclamait un an d'extension. Un vote du Conseil de sécurité est attendu dans la soirée pour confirmer la prolongation du dispositif et prévoir son renouvellement en janvier pour à nouveau 6 mois sous condition de l'adoption d'une nouvelle résolution. Le texte objet d'un consensus prévoit la reprise par l'ONU de l'utilisation du point de passage de Bab al-Hawa, situé à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Face à la septième vague de Covid-19, la Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne recommandent une deuxième dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans au lieu de plus de 80 jusqu'ici. Le deuxième rappel correspond généralement à la quatrième dose de vaccin. Il n'y aura pas de procès en appel pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Aucun des 20 accusés n'a interjeté appel. Le procureur national antiterroriste et le procureur général près la Cour d'appel de Paris n'ont pas non plus fait appel de la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris. Le délai d'appel de 10 jours a expiré ce lundi à minuit. Les députés français ont rejeté hier une motion de censure du nouveau gouvernement déposée par la gauche. Seuls 46 élus de l'Assemblée nationale ont soutenu ce texte porté par l'alliance de la gauche NUP. L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient était Sylvie Hiver pour un roman « Au moins le souvenir » aux éditions Héloïse d'Ormesson, un roman consacré au poète Lamartine qui fut également homme politique, extrait de cette émission.
Il est assez extraordinaire parce qu'à une époque où beaucoup de gens sont quand même très catholiques, lui réfléchit à tout, les idées politiques, la philosophie, la poésie, comme on l'a réinventé. Il l'a d'ailleurs pas fait exprès, mais bon, il avait un don inouï. Pour moi, je dis souvent que c'est un génie français, un authentique génie français, mais effectivement complètement oublié. Et pour lui, tout se mélangeait, la poésie, la politique, la religion, l'amour, tout ça, ça ne fait qu'un. C'est un penseur quand même, c'est un penseur politique. Il commence, c'est ça son premier livre d'ailleurs. Ce sont des réflexions autour de la politique. Ça l'a toujours intéressé, mais encore une fois, pour lui, c'est la même chose que la poésie. La poésie est, on dirait aujourd'hui, engagée. D'ailleurs, il en fait une contre la peine de mort qui est magnifique, magnifique. Moi, j'ai redécouvert plein de choses, hein, j'avais oublié. Je pensais trouver un poète, certes, qui avait été très célèbre, mais qui aujourd'hui était peut-être un peu vétuste. Je pensais vraiment ça. Quand j'ai racheté le Pléiade et que j'ai commencé à lire, mon Dieu, alors les méditations qui ont été un coup de tonnerre dans le ciel littéraire à l'époque, et je dirais qu'aujourd'hui tous les poètes en descendent, quels qu'ils soient, avec une exception peut-être concernant les surréalistes, et encore, peut-être ça pourrait se discuter, je ne sais pas. Il a tout réinventé, il a abandonné parfois l'alexandrin, il a fait des rythmes nouveaux. Vraiment, c'est inouï, c'est un homme extraordinaire qui valait vraiment la peine que je me donne tout ce mal.
Il y a une phrase de Lamartine qui est restée célèbre, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». On connaît presque plus la phrase que Lamartine.
C'est vrai, c'est vrai. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement quand on cite Lamartine, c'est toujours ça, ou un ou deux autres vers très connus.
Autant suspend ton
voile. Voilà, par exemple. Mais j'ai réalisé en le lisant, j'ai pas tout lu, hein, parce que c'est impossible. Il y a tellement de choses en prose ou en poésie, c'est pas possible. J'y aurais passé une partie de ma vie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on lit sa poésie, il faut surtout pas citer deux vers. Ça ne mène à rien. C'est un véritable chant. Vous savez, on dit toujours que la poésie, c'est un chant. Mais là, on s'en rend vraiment compte. Il faut vraiment lire des vers et des vers et des vers pour se laisser embarquer. C'est extraordinaire. Bon, moi, j'ai toujours aimé la poésie. Mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'aimer pour le lire et comprendre ce que c'est vraiment que la poésie.
Il y a un poète anglais qui lui était contemporain, Byron, qui est resté, qui est une figure nationale britannique. On est injuste avec Lamartine en France ?
On est carrément injuste. Et alors, à force de me poser la question, de savoir pourquoi il était tellement oublié, j'ai fini par avoir peut-être une idée. Et là, c'est l'homme politique qu'il est devenu rapidement qui peut expliquer ça. Je pense qu'un homme comme lui, qui venait de ce qu'on appellerait aujourd'hui la droite, qui était royaliste, monarchiste et même légitimiste, c'est-à-dire vraiment à la pointe de la monarchie, un nom à particules, catholique, pratiquant mais ayant toujours des doutes, mais bon, ayant rendu cette deuxième république si méconnue en France en 1848, finalement religieuse, c'est drôle, contrairement à la première, je pense que quand la troisième république a vu son avènement, je pense que les dirigeants de la troisième république se sont débrouillés pour ne pas trop faire référence à Lamartine, parce que ça n'allait pas dans leur doxa. Si vous voulez, eux, au contraire, ils étaient laïcards, il fallait promouvoir la laïcité, un nom à particules, aristocrate, catho, tout ça, c'était trop difficile à avaler.
Alors Sylvie Hivert, Lamartine a été un des premiers écrivains français à accomplir un voyage en Orient, bien avant Gérard de Nerval ou Flaubert, Chateaubriand l'avait tout de même précédé. Lui, il est parti en Orient avec sa femme et sa fille Julia, qui malheureusement trouvera la mort lors de ce voyage. Qu'est-il allé chercher en Orient ?
Plein de choses, mais contrairement à Chateaubriand, il n'y est pas allé en touriste, en croisé, il y est allé pour vraiment rencontrer l'autre, avec un A majuscule. Et il avait de toute façon toujours été attiré par l'Orient. Il était de nature extrêmement admiratif de l'islam, parce que ce qu'il aimait dans l'islam, c'était cette relation directe avec Dieu. Et ça, je crois qu'il ne se fera jamais ou presque à ces intermédiaires dans la religion catholique qui le dérangeaient beaucoup. Et d'ailleurs, il était très apprécié par les Arabes. Et il le leur rendait bien, il l'avait surnommé l'émir Frangi, c'est-à-dire l'émir français de France. Et tout l'émerveillait. Il est comme nous quand on va dans les souks et qu'on voit il a acheté comme il adorait les chevaux, il a acheté des selles, il a acheté des tonnes des tapis, des kilims. Il aimait tout, voilà. Il aimait tout en Orient, au Liban en particulier.
Il a beaucoup aimé le Liban notamment. Il était très impressionné en particulier par les cèdres dont le bois a servi pour bâtir le temple de Salomon.
Oui, j'ai découvert ça en écrivant le livre. Je ne le savais pas par avance. Comme souvent, il y a plein de choses que je découvre. Ce que j'oublie de dire de très important quand même, c'est que dans ce voyage en Orient, l'idée tout de même, c'était d'essayer de rencontrer Dieu en allant sur la Terre Sainte. Et malheureusement, ça n'est pas advenu. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a tout fait, il s'est prosterné, il a mangé la poussière. Mais en fait, sa femme s'est bien rendu compte que les doutes persistaient.
Et le voyage est terni par la mort de sa fille, âgée de 10 ans et demi. On pense d'ailleurs à Victor Hugo, qui perdra sa fille Léopoldine par la suite.
C'est vrai,
ils étaient proches tous les deux.
Oui, ils étaient à la fois proches et... Bon, ils étaient amis sans être... Oui, ils étaient quand même assez intimes, mais ils ont commencé tous les deux la politique du même bord. Et puis ensuite, quand Lamartine est devenu républicain, brutalement, j'ai presque envie de dire brutalement, d'une minute à l'autre, Hugo n'a pas suivi. Et ça, je trouve que c'est une seconde injustice. C'est-à-dire que on a gardé du 19e, on a gardé Hugo, ça tout le monde le connaît, tout le monde sait à peu près ce qu'il a fait. Je trouve ça très... Bon, j'adore Hugo, je préfère le dire tout de suite, j'adore Hugo. Mais je trouve ça injuste parce qu'il n'est pas devenu républicain immédiatement, il lui a fallu plus de temps que Lamartine. Et quand il l'est devenu, alors il est passé, il l'a doublé sur sa gauche, mais alors jusqu'à l'extrémité. Je pense qu'aujourd'hui, il serait d'extrême gauche, Hugo.
Sylvie Hivert, auteur de Au moins le souvenir aux éditions. Élise Dormesson, elle était l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2022, le Maroc jouera demain face au Botswana. Une rencontre à partir de 21h à Rabat, le Botswana marquera ainsi sa toute première apparition en phase finale d'une CAN féminine. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr, Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.